Voilà, donc nous passons sans transition, et évidemment c'est un petit peu long cette journée à la Cité de Dieu. La Cité de Dieu, qui est une œuvre immense, et je pense que vous en avez conscience, et donc mon but est d'essayer de vous donner quelques clés pour entrer dans l'ouvrage et pour le lire de façon efficace, sachant que bien évidemment, je pense bien que vous ne lirez pas tout, et qu'il faut savoir choisir. Donc j'ai intitulé mon propos « La Cité de Dieu » la religion chrétienne comme vraie philosophie, et donc je voudrais dans un premier temps essayer de, enfin en introduction, bien situer la Cité de Dieu parmi les apologies de la religion chrétienne, car si on ne situe pas bien la Cité de Dieu, on ne voit pas le genre et on ne comprend pas la pertinence de l'argumentation. Si vous connaissez un peu les apologistes, c'est-à-dire ces premiers auteurs du christianisme au 2e, 3e siècle, eh bien, vous savez peut-être que Justin, philosophe et martyr, mort à peu près la première moitié du second siècle, défend le christianisme contre les attaques des païens en le présentant comme la vraie philosophie. En dialogue, dans le dialogue avec Tryphon, paragraphe 8, il est dit que le christianisme est la seule philosophie sûre et profitable. Tertullien, donc là nous sommes en monde latin, non plus en monde grec, Tertullien présente de son côté le christianisme pour le défendre contre les. En s'adressant notamment aux empereurs, et il présente le christianisme comme la vera religio, comme la vraie religion. Je prends maintenant un troisième auteur, Lactance. Lactance, donc au début du IVe siècle, va combiner les deux thèmes et expliquer dans le livre 4 des... Enfin, par exemple, il a comme titre dans le livre 4 des institutions divines « De vera sapientia et religione », de la vraie sagesse et de la vraie religion. Et sa thèse fondamentale, et ça c'est essentiel pour la Cité de Dieu, est la suivante. C'est dans les institutions divines 1.1.25. Vous n'avez pas le texte, les textes suivants vous les aurez. Je résume brièvement l'essentiel de cette science en disant qu'il ne faut pas adopter de religion sans sagesse, ni approuver de sagesse sans religion. Donc, le critère, c'est de vérité, c'est de ne pas dissocier sagesse et religion. Alors, j'ai montré ailleurs, mais ce n'est pas ici mon objet, qu'un des premiers traités d'Augustin, qui n'est d'ailleurs pas à votre programme, qui s'appelle « La vraie religion », dépend certainement en partie de Lactance, enfin pour source Lactance. Ce traité a été écrit par Augustin en 390, c'est-à-dire juste avant qu'il ne devienne prêtre, mais c'est donc un des tout premiers traités d'Augustin. Et on a pu dire, et c'est encore, on va faire référence encore à Gulvenmadec, on a pu dire que la Cité de Dieu est en fait un « de vera religione ». Et je pense que c'est tout à fait juste comme perspective. Et donc, ce qu'on voit en petit dans le traité de la vraie religion est en quelque sorte la matrice de ce qui va être développé en 22 livres dans la Cité de Dieu. Or, dans le traité de la vraie religion, au paragraphe 12, en 7-12, voilà le principe de base, sont à écarter ceux qui ne sont ni philosophes dans leur pratique religieuse, ni religieux dans leur pratique philosophique. Je pense que vous avez vu comment cette phrase est en écho à celle de Lactance. Le critère de vérité, c'est d'associer sagesse et religion. À partir du moment où il y a dissociation entre sagesse et religion, sagesse et culte, ça pose problème. Et donc, dans le De vera religione, Augustin, pour montrer que le christianisme est la vraie philosophie, explique, et là pour le coup vous avez le texte intégralement, c'est tout à fait la fin du dossier, que le Christ accomplit les trois parties de la philosophie. Donc le Christ accomplit les trois parties de la philosophie. Dans le texte que j'ai donné, c'est au verso de la page, les paragraphes 30 à 34. Donc De vera religione, 16-30 à 17-34. Bon, je reviendrai sur ce texte, mais je dis déjà globalement que ce que Augustin va montrer, c'est que le Christ accomplit à la fois l'éthique par sa manière de vivre, la physique par sa résurrection, et même la logique par sa manière d'enseigner. Donc le Christ accomplit les trois parties de la philosophie. Et il faut voir que ce même schème apparaît dans la lettre 118, la lettre à Dioscore, bon, qui n'est bien sûr pas non plus à votre programme, mais si je le souligne, c'est pour vous faire comprendre qu'il s'agisse d'une sorte de schème de pensée d'Augustin qui peut permettre de comprendre la cité de Dieu et la manière dont la cité de Dieu est composée. J'en arrive donc maintenant, de façon plus spécifique, à la cité de Dieu. Vous trouvez dans la cité de Dieu, et là vous avez les extraits sur et le plan de ce que je vous indique sur l'exemplier que j'espère vous avez pu prendre, vous avez deux extraits dans la cité de Dieu, deux extraits où il est fait mention de la cité, de la vraie philosophie. Le premier extrait se situe à la fin du livre 10, au paragraphe 32, de la cité de Dieu. Je dis quand même en deux mots, j'espère que vous avez en tête le plan de la cité de Dieu. Vous avez deux grandes parties de la cité de Dieu, les livres 1 à 10 d'une part, où Augustin évoque, finalement c'est le monde du paganisme dans les livres 1 à 10, et on a pu dire que c'était qu'il y avait une sorte de progrès, enfin des conceptions les plus grossières du polythéisme vers les conceptions les plus hautes de Dieu dans la philosophie. Le progrès, enfin le terme, c'est dans les livres 8 à 10. Hein. Vous avez donc ce thème de la philosophie la plus vraie qui arrive juste à la fin de ce livre 10 qui correspond exactement à la fin de la première partie, avant la seconde partie de la cité de Dieu. Je lis ce texte. Quand Porphyre dit que même la philosophie la plus vraie ne lui a pas encore fait connaître un système proposant la voie universelle du salut, il montre assez, me semble-t-il, que cette philosophie professée par lui n'est pas la plus vraie ou ne possède pas une telle voie. Et comment pourrait-elle être la plus vraie sans proposer cette voie ? Bon. Alors, c'est en négatif, parce que là, c'est une... finalement, c'est une manière de dire... Porphyre n'a pas trouvé la philosophie la plus vraie, puisqu'il n'a pas trouvé la voie universelle du salut. Et donc, vous voyez, en fait, le thème important, c'est que la philosophie la plus vraie doit être celle qui, en même temps, vous apporte le salut. Et donc, doit être la vraie religion. Alors, le thème réapparaît ensuite au livre 22, donc à l'extrême fin de la cité de Dieu. Donc, la deuxième partie de la cité de Dieu est en trois temps, origine, développement et fin de la cité de Dieu. Hein, c'est trois sous-parties de cette deuxième partie. Et donc, livre 22, on est quasiment vraiment tout à fait au terme. Hein, et c'est au paragraphe 22 du livre 22. Augustin présente alors la pensée de Cicéron. Et voilà ce qu'il dit. « Eux aussi, les sages de ce siècle, déclarent que la philosophie est utile pour supporter les maux. Mais, au dire de Cicéron, les dieux ne donnent la vraie philosophie qu'à un petit nombre. Et c'est, dit-il, le don le plus précieux qu'ils aient fait aux hommes et qu'on puisse faire aux hommes. C'est à ce point que nos adversaires eux-mêmes sont contraints d'avouer de quelque manière que la philosophie, non la première venue, mais la vraie, ne s'acquiert pas sans une grâce divine. » Donc, vous voyez ici que Augustin suggère que seul le Christ nous conduit à la vraie philosophie, bon, car seul il nous apporte la grâce qui nous délivre. En fait, il ne s'agit que des deux seules mentions de l'expression « vera philosophia » dans la cité de Dieu. Mais leur emplacement est tellement décisif qu'à mon avis, elles sont extrêmement importantes pour l'interprétation de l'ouvrage. Et en même temps, le fait que ça ne vienne que deux fois oblige à penser qu'Augustin a un petit peu modifié son schéma argumentatif par rapport au De vera religione, ce que j'essaierai de montrer à la fin de mon exposé. La nouveauté de la cité de Dieu, en effet, et d'introduire massivement l'écriture dans les livres 11 à 22. Si vous avez commencé à lire ces livres 11 à 22, en fait, il s'agit d'une lecture de toute l'écriture, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Bon, mais en traitant en même temps toute une série de questions. Alors, en fait, même si cette expression vera philosophia est assez peu présente dans l'ouvrage, en revanche, le thème de la division tripartite de la philosophie est très important dans la Cité de Dieu et, à mon avis, n'est pas développé au hasard. Et j'ai fait une hypothèse que j'espère convaincante, qui met en relation la structure tripartite de la philosophie avec les trois temps de la deuxième partie de la Cité de Dieu, origine, développement et fin des deux cités. Mais je vais bien évidemment essayer de vous expliquer pourquoi il me semble qu'il y a un rapport entre cette division tripartite de la philosophie et ces trois temps de la deuxième partie de la Cité de Dieu. Donc, mon topo maintenant va se développer en trois temps. Premièrement, j'examine les trois parties de la philosophie, les mentions des trois parties de la philosophie, d'une part dans les livres 8 et d'autre part dans le livre 11 de la Cité de Dieu. Et puis, dans un deuxième temps, je verrai en quoi ça correspond donc à l'origine, au développement et à la fin des deux cités, donc aux trois temps des livres 11 à 22 de la Cité de Dieu. Et enfin, je montrerai que si Augustin mentionne si peu le thème de la vraie philosophie, c'est parce qu'en fait, au fond, ce qui lui importe, c'est de faire passer ses lecteurs de la philosophie à l'écriture, parce que l'écriture est supérieure, en fait, à la philosophie. Commençons par les mentions de la division tripartite de la philosophie. Donc, il y a deux lieux où c'est très important. D'une part, dans le livre 8, dans les paragraphes 4 à 10, et d'autre part, dans le livre 11, où c'est mis explicitement en lien avec la doctrine trinitaire. Alors, dans le livre 8 de la Cité de Dieu, la division tripartite est mentionnée dès le paragraphe 4, où Augustin l'attribue à Platon. Je cite, vous avez le texte, « Platon a divisé la philosophie en trois parties. » Platon a divisé la philosophie en trois parties, une partie morale, qui se rapporte surtout à l'action, une autre naturelle, qui est réservée à la contemplation, une troisième rationnelle, qui distingue le vrai du faux. Dans le paragraphe 10, Augustin va présenter un peu différemment la division tripartite. Et il précise la correspondance entre les termes grecs et latins. Il explique que la partie naturelle ou physique traite de l'étude de la nature, que la partie rationnelle ou logique recherche comment on peut atteindre la vérité, et que la partie morale ou éthique traite des mœurs, des fins bonnes à poursuivre et des fins mauvaises à éviter. Je note que la première présentation, donc au début du livre 8, va surtout insister sur la partie naturelle de la philosophie, bon, en débattant d'ailleurs avec Varron, mais que la deuxième présentation modifie de façon significative l'ordre des parties de la philosophie. Parce que l'ordre mentionné en premier lieu correspondait probablement à l'ordre de l'Académie, tandis que de l'ancienne Académie, même s'il est clair que l'emploi du mot logique trahit une influence du vocabulaire stoïcien, tandis que l'ordre que maintenant Augustin développe prépare directement la correspondance avec la doctrine trinitaire. Alors, entre ces deux mentions de la division tripartite, Augustin esquisse un parallèle entre les platoniciens et les autres philosophes selon ce cadre, en examinant successivement la physique, la logique et l'éthique. Et donc, vous voyez, on voit très bien que la visée du développement, il entend à chaque fois montrer la supériorité des platoniciens sur tous les autres philosophes et de montrer, d'autre part, que la conception de Dieu qui est celle des platoniciens s'apparente, est très proche de la conception chrétienne. Il va dire « ils sont plus proches de nous ». C'est une sorte de refrain que vous trouvez. Ou encore « ils pensent comme nous ». On est bien d'accord, Augustin ne se soucie pas de faire de l'histoire de la philosophie de façon objective. Il est en train de présenter, en quelque sorte, de façon, vous diriez, presque tendancieuse, cette tripartition, ben, pour préparer, en fait, l'exposé de la doctrine trinitaire. Alors, l'essentiel est donc pour lui dans la présentation systématique de la conception platonicienne de Dieu, qui est liée à la division tripartite. Et c'est pour ça que je vous ai mis en latin toute une série de triades, que je vais évoquer, si vous voulez, donc par exemple en De Trinitate 8.4, donc il s'agit bien sûr de ces philosophes platoniciens, je lis en français, vous avez le texte latin sous les yeux, « Peut-être ont-ils de Dieu cette conception qu'on trouve en lui la cause de l'existence, causa subsistendi, la raison de l'intelligence, la règle de la vie. » Et un peu après, « Le Dieu unique, véritable et parfait, unum verum optimum, sans lequel nulle nature ne subsiste, nulle doctrine n'instruit, nulle conduite n'est utile. » Enfin, usus, c'est un peu compliqué à traduire ici. « Que ce soit lui qu'on cherche, en qui est pour nous l'origine de toute chose, lui que l'on contemple, en qui est pour nous toute certitude, lui qu'on aime, en qui est pour nous toute rectitude. » Je pense que vous voyez à quel point les textes sont balancés et qu'en fait, il y a un ternaire sur lequel Augustin joue. Au paragraphe 5, il écrit « Qu'il le cède aux philosophes platoniciens qui reconnaissent le vrai Dieu pour l'auteur des êtres, rerum auctorem, la source lumineuse de la vérité, veritatis in ustratorem, et le dispensateur de la béatitude, beatitudinis largitorem. » Au paragraphe 9, « Ainsi tous les philosophes, quels qu'ils soient, qui ont reconnu dans le Dieu suprême et véritable, l'auteur des choses destinées à être créées, la lumière des choses à connaître, le bien où tendent toutes nos actions, celui qui est pour nous le principe de la nature, la vérité de la doctrine et la félicité de la vie. » Je pense que ces ternaires sont quand même très, très frappants. Paragraphe 10, je ne lis que la fin de la citation. « Lui qui est notre principe, notre lumière, notre bien. » Et un peu après, « Cela, une fois Dieu connu, on sut où trouver la cause réalisatrice de l'univers, la lumière où se perçoit la vérité, la source où s'abreuve la félicité. » Donc je pense que vous avez bien compris que dans cette systématisation, la physique conduit les platoniciens à reconnaître Dieu comme cause et principe de tout ce qui existe. Dieu unique qui est l'auteur des natures. La logique les mène à affirmer que Dieu est la lumière des esprits, la raison de l'intelligence, la vérité de la doctrine, le Dieu vrai d'où vient toute certitude. Enfin, l'éthique les entraîne à voir en Dieu la règle de la vie, le Dieu bon, principe de toute rectitude et source du bonheur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en écho à ces formulations philosophiques, Augustin donne une formulation chrétienne qu'il présente comme trait de voisine et que vous avez au paragraphe 10 encore. Je lis le français et non pas le latin. « Nous tenons du Dieu unique, véritable et très bon, une nature selon laquelle nous sommes faits à son image, une doctrine qui nous apprend à le connaître et à nous connaître, une grâce qui nous rend heureux en nous unissant à lui. » Et il est bien clair que cette dernière formulation prépare les énoncés du livre 11 sur l'homme comme image de la Trinité. Je quitte le livre 8 et je vois maintenant les mentions de la division tripartite dans le livre 11 de la Cité de Dieu. Et là, le contexte est différent parce que nous sommes passés, vous avez bien compris que livre 1 à 10, ce sont les païens. À partir du livre 11 à 22, on est à l'intérieur de la doctrine chrétienne et donc de l'exposé de l'Écriture. Et ici, donc dans les livres 1 à 10, on a une démarche ascendante. Alors que maintenant, dans les livres, à partir du livre 11, si vous voulez, tout est déduit de l'écriture. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est la correspondance entre les deux grands ensembles. Alors, il va partir du récit de la Genèse, et vous avez déjà compris que Genèse 1 est fondamentale dans la pensée d'Augustin, on l'a vu déjà dans les Confessions, et il se demande, pourquoi dans le récit de Genèse 1, il est mentionné pour chaque créature, il va voir pour chaque créature qui l'a faite, par quels moyens et pourquoi, et pour lui, il voit là-dedans une insinuation de la Trinité. Le mystère trinitaire étant pour lui objet indiscutable de foi. Bon, c'est la citation suivante, mais que je saute. Mais alors, la citation fondamentale, c'est celle à laquelle j'arrive maintenant, qui est très élaborée et qui fait vraiment le lien entre la doctrine trinitaire et la division tripartite. Autant qu'il est permis d'en juger. De là vient la division en trois parties de l'étude de la sagesse, telle que les philosophes ont voulu l'établir ou telle qu'ils l'ont pu l'observer. Car elle n'a pas été instituée par eux, ils l'ont simplement découverte. Donc vous avez bien compris, c'est de la doctrine trinitaire que vient la division tripartite de la philosophie. Et la division tripartite de la philosophie, ils ne l'ont pas inventée. En fait, ils n'ont fait que la reconnaître, parce qu'en fait, ça correspond à une structure de l'esprit, puisque l'esprit est fait à l'image de la Trinité. La première partie fut appelée physique, la seconde logique, la troisième éthique. Ces noms ayant pour correspondant latin dans les écrits de nombreux auteurs, partie naturelle, rationnelle, morale, nous en avons déjà dit un mot au 8e livre. Ce sont les textes que je vous ai cités tout à l'heure. Non qu'il s'en suive que ces philosophes aient eu dans cette triade quelque idée de la Trinité en tant que Dieu. Bien que Platon, le premier dit-on à découvrir et à mettre en vogue cette division, ait vu en Dieu seul l'auteur de toutes les natures, le donateur de l'intelligence, l'inspirateur de l'amour, source d'une vie vertueuse et heureuse. Autrement dit, Platon n'était vraiment pas loin du tout de la Trinité. Certes, sur la nature des choses, sur les moyens de discerner la vérité et sur le bien final où doit tendre toute notre agir, les divers philosophes ont varié de sentiments. Mais l'ensemble de leurs recherches n'emporte pas moins sur ces trois grandes questions générales. Ainsi, bien qu'en chacune de ces trois grandes questions générales, chacun professe des opinions divergentes, nul pourtant n'hésite à reconnaître que la nature a une cause, la science une méthode, la vie un sens. Donc, la division tripartite de la philosophie, elle est maintenant un élément qui manifeste la manière dont la Trinité se révèle dans ses œuvres. Et ce qu'Augustin cherche à montrer, c'est que cette division tripartite a son origine ultime dans la création de l'homme par la Trinité. Je saute un tout petit peu ici, mais pour vous montrer que la structure tripartite de la philosophie est en fin de compte rattachée par Augustin à une structure anthropologique fondamentale qu'Augustin formule à travers la triade que nous avons déjà rencontrée, Natura, Doctrina, Amor. Et à partir de là, donc vous avez la citation, c'est en 11-25, Augustin va énoncer de façon très vigoureuse la triple dépendance qui lie tout homme à Dieu. À mon avis, cette citation est une clé. Je vous conseille vraiment de la prendre. Elle dit quelque chose de fondamental de la conception de l'homme d'Augustin. Parce qu'en fait, notre nature, pour exister à Dieu comme auteur, il est certain que pour goûter la vérité, nous devons l'avoir lui-même comme maître, docteur M. Et l'avoir lui-même encore pour être heureux, comme dispensateur d'une douceur intérieure. Donc, Dieu, principe de notre existence, Dieu illuminateur, enfin Dieu qui, principe de la vérité, qui nous illumine intérieurement, on pourrait revenir à ce qu'a dit Laurent Lavaux ce matin, et Dieu, source du bonheur, dispensateur de la grâce. Donc, si la philosophie a trois parties, c'est en dernière analyse, parce que l'esprit humain est une image de la Trinité, puisqu'il existe, connaît, et aime. Donc vous avez compris pourquoi Augustin insistait tant sur le fait que cette division n'avait pas été inventée par les philosophes, mais en fait qu'elle leur avait été révélée en quelque sorte. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre les enjeux de cette conception. Il en résulte d'abord, et c'est ce que disait le texte sur lequel j'ai beaucoup insisté, que cette structure tripartite s'impose à toute recherche, puisqu'en fait elle est le cadre à partir duquel toute la philosophie se développe, selon Augustin, quelles que soient les opinions des philosophes en question. Mais ça veut dire aussi que cette structure tripartite s'impose à Augustin lui-même. Augustin dit explicitement que ces trois grandes questions générales sont celles de tout philosophe. Et donc on peut supposer que ce sont aussi les siennes. D'où mon hypothèse, est-ce qu'il ne présenterait pas la religion chrétienne à travers cette tripartition? Et à mon avis, l'hypothèse prend beaucoup de force quand on constate qu'au livre 11, au paragraphe 24, Augustin articule explicitement le thème de la cité céleste à celui de la structure trinitaire de tout le créé, avant d'introduire précisément la mention de la division tripartite de la philosophie. Donc, je lis ce texte que vous avez encore, donc 11-24. La Trinité tout entière se révèle à nous dans ses œuvres, et c'est d'elle que la cité sainte, qui est là-haut dans les saints anges, tire et son origine, et sa forme, et sa béatitude. Vous reconnaissez toujours les trois termes. Demande-t-on d'où vient son existence? C'est Dieu qui l'a fondée. D'où vient sa sagesse? C'est par Dieu qu'elle est éliminée. D'où vient sa béatitude? C'est Dieu dont elle jouit. En subsistant en lui, elle a son degré d'être. En le contemplant, elle a sa lumière. En s'unissant à lui, elle a sa joie. Elle est, elle voit, elle aime. Dans l'éternité de Dieu, elle a sa vigueur. Dans la vérité de Dieu, elle brille. Dans la bonté de Dieu, elle se réjouit. Bon, je pense que vous avez bien compris à chaque fois les trois termes. Bon, alors, et c'est rattaché donc au thème de la cité sainte, hein, qui tire de là son origine, sa forme, sa béatitude. Les termes origine, forme, béatitude, origo, informatio, beatitudo, en fait, ne sont pas du tout sans lien avec la physique, la logique et l'éthique. Ça va de soi, en tout cas, pour l'origine et la béatitude. Ben, la question de l'origine, c'est la question de la physique. La question de la béatitude, c'est incontestablement la question de l'éthique, puisque c'est la question de la fin, du télos. Alors, c'est un peu moins évident pour la question de la forme, de l'informatio, mais je vais essayer de montrer néanmoins que ça a une certaine pertinence là aussi. Autrement dit, si je récapitule, quand Augustin, dans les livres 11 à 14, expose l'origine de la cité céleste, lorsqu'il se demande d'où elle tire son existence, il paraît aborder des questions qui relèvent de la physique, et je vais essayer de le montrer. Quand il s'interroge ensuite sur ce qui fait donc le bonheur de cette cité sur sa fin, donc là il s'agit des livres 19 à 22, autrement dit sur le télos, il traite, à mon avis, de questions qui appartiennent à l'éthique. Bon, alors quant à la place de la logique, par rapport au développement des deux cités, donc dans les livres 15 à 18, eh bien ça va s'éclairer par le texte parallèle que nous allons lire du De Vera Religione. Il est vrai que quand on n'a pas lu ce texte, on peut penser que c'est beaucoup moins évident. Mais pour le dire en deux mots, finalement, l'écriture qu'Augustin déploie de façon... Enfin, il déploie toute l'histoire du salut des livres 15 à 18, très largement. L'écriture est finalement la vraie manière d'enseigner pour Augustin. Et c'est en ce sens-là que c'est l'accomplissement de la logique. Mais on va le voir de plus près. J'en arrive donc à mon deuxième temps, une clé pour la structure des livres 11 à 22 de la Cité de Dieu. Et je voudrais là, pour que ce soit plus clair, que vous ayez sous les yeux le livre, l'extrait du De Vera Religione, donc dans les paragraphes 30 à 34, Et je voudrais lire très brièvement quelques phrases de ce texte en lien avec les trois parties de la philosophie. Je vous disais qu'il y a un lien entre les livres 11 à 14 et la physique. Alors, voyons ce qu'il dit au paragraphe 32. Tiens, tu peux le prendre là, si tu veux. Au paragraphe 32, ce qu'il dit de la physique. Vous voyez, ça commence ainsi toute sa vie sur Terre, par l'humanité qu'il avait daigné assumer, a été un enseignement moral, disciplina morum. Donc ça, c'est la fin, en fait, de ce qui traite de l'éthique. Maintenant, je lis les quelques lignes suivantes. Sa résurrection a bien montré, donc la résurrection du Christ, a bien montré que rien ne périt dans la nature humaine, puisque Dieu sauve toute chose. Comment tout est au service du Créateur, soit pour châtier le péché, soit pour libérer l'homme, et combien il est facile au corps de servir l'âme lorsqu'elle-même est soumise à Dieu. Dans ces conditions, non seulement aucune substance n'est un mal, chose absolument impossible, mais elle n'est atteinte d'aucun mal, car le mal ne vient que du péché et de sa sanction. Telle est la doctrine chrétienne de la nature, en latin « disciplina naturalis », objet d'une foi sans réserve pour les simples et aux yeux des sages, pur de toute erreur. Donc, vous voyez, dans ce texte, pourquoi le Christ accomplit la physique? C'est parce que par sa résurrection, il manifeste que Dieu sauve toute chose et il manifeste que toute chose est un bien. Et que donc, il n'y a pas de mal. Et donc, évidemment, là, c'est contre les manichéens. Vous avez bien compris que le débat avec les manichéens est très important. Alors, je reviens aux livres 11 à 14, et je vous évoque quelques thèmes des livres 11 à 14 qui montrent bien une relation avec la physique. Dans le livre 11, Augustin affirme que le monde a été fait et qu'il a eu un commencement. Et il s'oppose directement à la thèse très commune dans l'Antiquité de l'éternité du monde. Bon, ses véritables interlocuteurs sont ici encore les platoniciens. Et je vous signale qu'il est extrêmement intéressant de lire ce texte en parallèle avec le livre 11 des Confessions auquel on a fait, Philippe Hoffmann a consacré l'intervention précédente, parce que ces textes se complètent. Mais en tout cas, si vous voulez, contre les platoniciens, qui pensent que le monde n'a pas eu de commencement dans l'ordre du temps, Augustin va affirmer que le monde a un commencement dans l'ordre du temps. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. J'en arrive au livre 12. Le livre 12 de la Cité de Dieu discute très longuement la question des cycles cosmiques. Et il fait allusion, enfin Augustin fait allusion à différentes manières de concevoir ces cycles pour ces philosophes qui excluent un commencement à l'activité de Dieu. Donc vous avez le texte, hein. Au livre 12, paragraphe 18, bon, ça c'est de la thèse des philosophes, il est nécessaire que les mêmes êtres reviennent toujours et s'écoulent en revenant toujours les mêmes, soit que le monde demeure en sa mutabilité, quoique éternelle et néanmoins créée sans début temporel, donc il s'agit de la Cité de Dieu là, soit qu'il disparaisse et renaisse incessamment par des révolutions répétées et destinées à se répéter sans fin. La première hypothèse me semble correspondre globalement à la conception plutôt néoplatonicienne et la seconde plutôt à celle des stoïciens. Et à ces cycles cosmiques, Augustin oppose la voie droite qu'est le Christ. Il dit en toutes lettres, « Suivons donc la voie droite qui est pour nous le Christ, et sous la conduite de ce sauveur, détournons de l'inepte et chimérique circuit des impies et notre intelligence et le chemin de notre foi. » Pour Augustin, l'unicité de la mort et de la résurrection du Christ exclut le retour cyclique. Donc la foi chrétienne oblige à prendre parti dans le débat des philosophes à propos de la physique. Mais un autre aspect du livre 12 de la Cité de Dieu est à rattacher également à la physique. Augustin y montre avec beaucoup de force que toutes les natures sont bonnes. Puisque, je cite, « c'est Dieu, auteur et créateur bon de toutes les substances qui les a créées ». Or, ce point est absolument central dans la doctrine chrétienne de la nature, comme le manifestait le paragraphe 32 du De Vera Religione. Bon, l'argument majeur dans la Cité de Dieu, au livre 12 de la Cité de Dieu, est le nom de Dieu. En Exode 3, 14, « Je suis celui qui suis ». si Dieu est l'essence suprême, et s'il est l'auteur de toutes les essences, quelles qu'elles soient, aucune essence ne lui est contraire. Donc il ne peut pas, et essentia est posé par Augustin comme un équivalent de natura, et donc il ne peut pas y avoir de nature contraire à Dieu. Et ça, c'est un élément fondamental de la conception chrétienne de la nature. Je signale que ce même souci de montrer que toute nature est un bien reste présent dans les livres 13 et 14, où Augustin traite de la chute et de ses conséquences. On note notamment, ce qui peut paraître très surprenant, un développement assez important sur la résurrection dans le livre 13 de la Cité de Dieu. Or, ce développement important sur la résurrection est moins étonnant si on s'aperçoit que la doctrine de la résurrection est fondamentale par rapport à la physique pour Augustin. D'autre part, dans le livre 14, il va insister de façon majeure sur la valeur du corps. Le corps est bon, contrairement à ce que disent les manichéens ou même, d'une certaine façon, les platoniciens. Donc, là aussi, je pense que c'est encore une manière de prendre parti par rapport aux questions physiques. Ce qui me semble en tout cas très frappant, c'est que les livres 11 à 14 s'achèvent de façon significative sur l'évocation de la toute-puissance de Dieu, créateur souverain et souverainement bon de toutes les natures. Vous voyez ? Donc en fait, la physique culmine dans le Père, créateur souverain et souverainement bon de toutes les natures, qui régit l'univers de façon telle que le désordre pervers des pécheurs ne puisse pas troubler, la rectitude de l'ordre des choses. Ça, c'était en 14-26. Il me semble donc qu'il y a un rapport entre les livres 11 à 14 sur l'origine des deux cités et la physique. Je voudrais maintenant montrer qu'il y a un rapport entre les livres 19 à 22 et l'éthique. En fait, la lecture du livre 19 est pour le coup d'une clarté, enfin je dirais, est assez convaincante immédiatement. Parce que le livre 19, la question posée, c'est la question des fins des deux cités. Donc la question du télos. Bon, qui fait référence d'ailleurs directement à l'ouvrage de Cicéron, le De Finibus Bonorum et Malorum, sur les fins des biens et des maux. La question majeure de ce livre 19, c'est la question du souverain bien. Celui auquel nous rapportons tous nos actes et que nous recherchons non pour un autre, mais pour lui-même. Donc c'est vraiment la question centrale de l'éthique. Et dès l'ouverture du livre 19, Augustin annonce qu'il confrontera les conceptions que les hommes se sont forgées de la béatitude avec la vraie béatitude que Dieu donnera. Donc vous voyez, il y a toujours l'idée de confronter ce que dit le christianisme, ben là maintenant de l'éthique, avec ce que les autres philosophes disent de l'éthique. Alors, il y a toute une systématisation que je vous laisse lire. Il multiplie à plaisir toutes les combinaisons possibles pour arriver à une variété considérable de doctrines relatives au télos, bon, à partir de Varron. Je dirais, il y a presque un jeu pour montrer que la cité terrestre est une Babylone. Une Babylone, c'est-à-dire la cité de la confusion, où personne ne se met d'accord. Et il conclut, c'est en livre 19, enfin il conclut pas, mais en opposition, il présente au livre 19, paragraphe 4, « Si l'on me demande quelle est la réponse de la cité de Dieu à chacune de ces questions, ce qu'elle pense sur les fins des biens et des maux, elle répondra que la vie éternelle est le souverain bien, la mort éternelle, au contraire, le souverain mal. » Pour acquérir la première et éviter la seconde, nous devons bien régler notre vie. Selon ce qui est écrit, le juste vit de la foi. Puisque nous ne voyons pas encore notre bien, nous devons le chercher au moyen de la foi. Et bien vivre ne nous vient pas non plus de nous-mêmes, si, croyant et priant, nous ne sommes aidés par celui qui nous a donné cette foi, par laquelle nous croyons avoir besoin de son aide. » Donc vous voyez que la doctrine chrétienne est ici expressément présentée comme une réponse aux questions qui sont celles des philosophes en matière morale. La correspondance est d'ailleurs expressément affirmée à nouveau un tout petit peu plus loin, au paragraphe 11 du livre 19. « Voilà pourquoi nous pourrions dire de la paix comme nous l'avons dit, de la vie éternelle, car elle est pour nous la fin de nos biens, donc le télos. Et il joue sur le double sens du terme finis. Alors, on voit peut-être moins bien comment les livres 20 et 21 se rattachent à ce thème, quoique, bah, malgré tout, le livre 21, c'est le thème de la fin des mots, c'est ce sens-là. Mais le livre 22 suggère ce que sera la béatitude éternelle de la cité de Dieu. Et Augustin souligne au terme que cette félicité pleine, vraie, assurée et sans fin sera le règne de la paix et que Dieu lui-même sera la fin de nos désirs. Bon, le sabbat éternel, c'est en livre 22, paragraphe 30, voilà ce qui sera à la fin, sans fin. Et quelle autre fin que de parvenir au royaume qui n'aura pas de fin. Bon, il y a bien évidemment un jeu sur finis que vous entendez. Mais en tout cas, ce terme finis qui arrive tout à fait au terme du livre 22, nous sommes au paragraphe 30, nous reconduit à nouveau à la problématique du télos et donc à la problématique éthique. Donc il me semble qu'Augustin ne perd jamais de vue le thème du souverain bien avec lequel s'ouvrait le livre 19. Donc, nous avons vu la correspondance des livres 11 à 14 avec la physique, des livres 19 à 22 avec l'éthique. Il reste à comprendre s'il y a un rapport entre les livres 15 à 18 et la logique. Alors, pour l'éclairer, je vous invite à commencer par lire, à revenir au texte du De Vera Religione que je vous ai donné, au paragraphe 33 cette fois-ci. Quant à sa méthode d'enseignement, rationalis disciplina, donc il s'agit de la méthode d'enseignement du Christ, tantôt directe et tantôt figurée, usant de la parole, du geste et du signe sacré, adaptée à toute âme pour sa formation théorique et pratique, ne réalise-t-elle pas l'idéal d'une discipline de la raison? Donc, on pourrait lire toute la suite, mais ce que je voudrais que vous compreniez bien, c'est que l'idée, c'est que l'écriture, la méthode d'enseignement, qu'elle soit directe ou figurée, est en fait présentée comme l'idéal d'une discipline de la raison. C'est la manière d'enseigner la meilleure, parce qu'elle est adaptée, en fait, à tout type d'homme. Et elle mène à la vérité de façon efficace. Alors, si j'en arrive donc à nos livres 15 à 18, en fait, si vous voulez, Augustin va continuellement souligner que les Écritures, l'écriture, nous présente la vérité, nous présente la sagesse. Et il va montrer, premièrement, je vais essayer de simplifier un peu, que les récits de l'écriture sont dignes de foi. Et de ce point de vue-là, vous avez beaucoup de remarques de critique historique, dont je vais vous faire grâce, parce que ce serait trop long, et en plus assez discutable, mais ça c'est un autre problème. Ensuite, il va faire apparaître non seulement la valeur de la lettre de l'écriture, mais la vérité des prophéties. Et la vérité des prophéties, bon ça c'est très présent dans les livres 15 à 18, elle apparaît grâce à l'interprétation spirituelle de l'Ancien Testament. Et donc on voit que tout ce qui était annoncé en figure dans l'Ancien Testament, qu'il s'agisse d'Abraham, de Melchizedek, de Jacob, etc., sont en fait des figures du Christ et que le Christ est venu accomplir. Bon, de même dans le livre 17, Augustin va multiplier les prophéties relatives au Christ pour bien montrer que eh bien, le Christ accomplit ce qui était annoncé. Donc, vérité toujours des prophéties. Je simplifie encore et j'arrive à la fin du livre 18. La fin du livre 18, dans cette fin, Augustin va esquisser une comparaison. Donc, vous voyez toujours ce thème de la comparaison entre doctrine chrétienne et doctrine païenne. Une comparaison entre les prophètes et les sages païens. Et il va chercher à montrer la supériorité des prophètes, en raison de leur antériorité tout d'abord. Bon, Moïse, par exemple, est présenté comme notre vrai théologien, ce véritable prédicateur de l'unique vrai Dieu, et pour lui, il est antérieur aux philosophes et aux poètes théologiens grecs. Mais la supériorité des prophètes, de Moïse et autres, tient surtout à ce qu'il n'y a chez eux aucune divergence. Et donc on retrouve le thème de Babylone, cité de la confusion, par opposition à Jérusalem, c'est la cité où tout fait corps pour Augustin, la cité une. Et donc c'est l'accord de tous les prophètes entre eux qui fait apparaître la supériorité en matière de vérité de la doctrine chrétienne sur la doctrine des philosophes païens. Et ce qui est assez fort, c'est qu'Augustin va jusqu'à assimiler les prophètes aux philosophes, ces amants de la sagesse, aux sages et aux théologiens. C'est au paragraphe 41 du livre 18 de la Cité de Dieu. Autre élément encore, l'accord des Septante. Ici, il fait allusion à la traduction de la Bible d'hébreu en grec. Et vous savez que les 70 prophètes, selon la légende, les 70 traducteurs se sont mis d'accord de façon extraordinaire sur la traduction. Mais qu'il y ait 70 personnes qui arrivent à se mettre d'accord sur une traduction, c'est quand même un tour de force. Et donc, pour Augustin, c'est là encore le signe de la vérité. Parce qu'il y a unité, il y a convergence par opposition à Babylone, la cité de la confusion, où tout le monde énonce des doctrines différentes. Et au terme donc de cette partie, c'est au livre 18, paragraphe 37, Augustin peut affirmer que la religion chrétienne est la religion où est la vraie sagesse. Vous voyez, on retrouve ce thème, vraie religion, vraie sagesse. Et il conclut l'ensemble de cette section par la mention du Christ, vous avez la citation, « Le Christ, maître de pierre pour la doctrine qui mène à la vie éternelle, est aussi lui-même notre maître. » Bon, donc, si vous avez bien compris, les livres 11 à 14, c'est en lien avec la physique, ça nous conduit au Père qui est le Créateur. Les livres 15 à 18, c'est la vérité, vérité de la doctrine, ça nous conduit au Christ, qui est le maître par excellence. Les livres 19 à 22, c'est tout le thème de la béatitude, et en fait de la grâce et de la paix. Or, il faut savoir que le mot grâce et le mot paix sont des noms de l'Esprit-Saint pour Augustin. Et donc, il y a une correspondance entre les trois parties de la philosophie et la doctrine trinitaire. J'espère que j'ai été à peu près claire. Mais je pense que vous voyez que ça ne peut pas être au hasard que c'est construit de cette façon-là. Il y a une sorte de confrontation, parce que le but, c'est de faire apparaître la supériorité de la doctrine chrétienne sur les philosophes païens. Alors, reste une question que je vais aborder très brièvement, parce qu'il me reste très peu de temps. Mais si c'est aussi fondamental, pourquoi Augustin ne le dit-il pas plus clairement? Bon, je peux donner la réponse en deux mots. C'est-à-dire que s'il le disait aussi clairement que ça, comme il le dit dans le De Vera Religione, ce serait encore une manière de subordonner l'écriture à la philosophie. Or, en fait, ce qu'il veut opérer, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il veut conduire ses lecteurs de la philosophie à l'écriture. Parce que l'écriture est supérieure à toute philosophie. Et donc, alors, ce qui peut nous permettre de le comprendre, c'est, je vais revenir à ce qu'il dit des philosophes dans le livre 8, et là vous avez les citations, dans le livre 8 de la Cité de Dieu, si vous voulez, vous vous souvenez que tout à l'heure j'ai montré que finalement, tel qu'Augustin le présentait, on avait l'impression que Platon, Porphyre avaient des idées très très proches de la doctrine trinitaire. Ah oui, mais pas tout à fait quand même. Alors, vous avez notamment la mise en garde qui est au livre 10, paragraphe 23, à propos de Porphyre. Hein, j'ai sauté quelques citations. Porphyre dit encore que les oracles divins ont répondu que les télètes de la nature, de la lune et du soleil, les télètes, hein, ce sont des rites, des formules destinées à convaincre les dieux. Donc, que les télètes de la lune et du soleil ne nous purifient pas, ce qui montrerait que l'homme ne peut être purifié par les télètes d'aucun dieu. Quelles télètes, en effet, purifient, si ceux de la lune et du soleil ne le font pas, eux qui passent pour tenir le premier rang parmi les dieux du ciel? Le même oracle, dit-il ensuite, a déclaré que les principes peuvent purifier. Sans doute de peur qu'après avoir dit que les télètes du soleil et de la lune ne purifient pas, on aille croire à la vertu purifiante des télètes de quelque autre de la foule des dieux. Alors, voilà le passage important. Or, quels sont ces principes pour un platonicien comme Porphyre. Nous le savons. Il parle en effet de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Le Fils, qu'il appelle en grec l'intellect ou l'entendement paternel. De l'Esprit Saint, il ne dit rien, ou ce qu'il en dit n'est pas clair. Je ne comprends pas, il est vrai, quel est cet autre dont il dit qu'il tient le milieu entre les deux autres. Alors, c'est un texte en fait extrêmement compliqué, parce que c'est ce qu'a montré Hans Levy. Augustin se réfère ici à l'exégèse porphyrienne d'un oracle chaldaïque. Dans la terminologie de l'oracle, les trois archailles qui purifient sont les trois gouverneurs, c'est-à-dire Aïon, le soleil et la lune. Mais Porphyre interprète ces trois archailles comme signifiant les trois principes, c'est-à-dire pater, patrikos nous et un mesos amphoin. Augustin fait part de sa perplexité à propos de ce troisième principe dont Porphyre fait un intermédiaire entre les deux autres. Alors, le rapprochement avec un vers des oracles chaldaïques, qu'au milieu des pères le centre des quatre est porté, peut ici expliquer ce que veut dire Porphyre, c'est un peu technique. Le principe médian n'est sans doute autre que la déesse Hécate, qui est identifiée par Porphyre avec la vie. Et donc on retrouve la triade qu'a mentionné tout à l'heure Philippe, être, vie, intelligence, que Porphyre introduisait dans son commentaire du Timée. Porphyre entendait donc, par cette exégèse, mettre en cause la purification par les dieux inférieurs, c'est-à-dire par les gouverneurs des Chaldéens, et y substituer la purification par les principes intelligibles, dont la contemplation peut seule délivrer définitivement l'âme. Alors, une fois que j'ai donné ces explications, je pense qu'on comprend mieux la présentation qu'Augustin fait de la doctrine de Porphyre. Il entend à la fois établir une concordance entre les trois principes des néoplatoniciens et la trinité des chrétiens, mais aussi marquer l'inexactitude de la doctrine porphyrienne, bien évidemment par rapport à la doctrine chrétienne, parce que pour établir une correspondance, il faut nécessairement qu'il minimise la distance entre les propos de Porphyre et la manière chrétienne de parler de la Trinité. D'où la manière dont ce qu'il dit du troisième principe selon Porphyre. En fait, s'il est volontaire, à mon avis, il est volontairement flou pour ne pas exclure le rapprochement avec l'Esprit Saint. Bon, et en plus, il oppose Porphyre à Plotin, qui propose une triade dont l'ordre serait plus conforme à celui de la Trinité chrétienne, mais qui en revanche pose une hiérarchie des principes qui est incompatible avec la foi chrétienne. Donc la visée d'Augustin, vous voyez bien qu'il lit de façon un peu particulière les philosophes qu'il précède, en fait il y a une visée tactique, apologétique. En fait, s'il minimise l'écart avec les platoniciens, c'est à l'évidence pour les inviter à se faire chrétiens. Il dit en toutes lettres, vous avez le texte dans le De Vera Religione, c'est le début du texte, il dit en toutes lettres que si les platoniciens revenaient aujourd'hui, en voyant le succès du christianisme, ils se feraient chrétiens. Et en fait, vous avez exactement la même démarche ici dans ce livre 10. Le but est de faire apparaître un rapprochement maximal tout en disant, ah oui, mais il y a quand même un seuil à passer. Et ce seuil, précisément, il se trouve à la fin du livre 10 de la Cité de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut reconnaître où est la voie universelle du salut. Cette voie universelle du salut, en fait, c'est le Christ. Bon, et si je reconnais le Christ comme voie universelle du salut, alors je peux entrer dans la cité de Dieu. Et donc, on commence à partir du livre 11 à entrer, si je puis dire, dans la cité de Dieu. Alors, je continue. Je vous ai donné aussi une autre citation qui est au paragraphe 29. Et vous allez mieux comprendre pourquoi Augustin dit qu'il faut passer de la philosophie à l'écriture. Il s'adresse à Porphyre. Tu proclames le père et son fils, que tu appelles l'intellect ou l'intelligence paternelle, et celui qui est entre les deux, désignant ainsi l'Esprit Saint, croyons-nous. Selon votre habitude, tu les appelles trois dieux. Sur ce point, tout en usant de termes indisciplinés, vous n'en voyez pas moins d'une certaine manière, et comme à travers les ombres d'une représentation floue, le but où il faut tendre. Donc vous voyez, les philosophes, Augustin va très loin, hein, les philosophes ont entreaperçu quelque chose de la Trinité. mais il l'exprime en termes indisciplinés. Et il est bien clair, du coup, qu'il faut préférer au vocabulaire des philosophes le vocabulaire de l'écriture. Et c'est pourquoi, à mon avis, si vous voulez, puisque la doctrine des philosophes, finalement, n'est qu'une ombre, une pâle image du mystère trinitaire, eh bien, il faut quitter ce registre-là et passer à la manière de parler de l'écriture, donc dans la suite de la Cité de Dieu. Et donc, il me semble que c'est la raison pour laquelle Augustin minimise le thème de la Vera Philosophia dans la deuxième partie de la Cité de Dieu. En tout cas, ce qui me semble caractéristique, c'est ce qui ouvre le livre 11 et qui montre bien l'importance de l'écriture à partir du livre 11. L'écriture, non par le hasard des courants d'idées, mais bien en vertu d'une disposition de la souveraine providence, surpassant par sa divine autorité toutes les littératures de toutes les nations, s'est assujettie toutes les catégories d'intelligence humaine. Donc ce qu'il s'agit d'opérer, c'est un passage de la philosophie à l'écriture. Et ce passage, je vais nécessairement simplifier beaucoup là, suppose en fait une chose à laquelle Augustin invite beaucoup Porphyre, c'est-à-dire un passage à l'humilité, puisqu'en fait il faut se laisser enseigner par une révélation dont on n'est pas soi-même la source. Je voudrais simplement évoquer en un mot le texte de d'Eusèbe de Césarée que j'ai mis à la fin de l'exemplillé et qui vous montre, parce que ça vous montre que cette correspondance entre la doctrine chrétienne et la division tripartite de la philosophie n'a certainement pas été inventée par Augustin lui-même. En fait, on la trouve aussi chez Origène, mais d'une autre façon. Mais que du coup, ça peut être un thème apologétique majeur. Donc vous avez, je crois ça, à la fin de l'exemplillé. Si Platon a divisé en trois parties physique, éthique et logique l'ensemble de la philosophie, tu peux trouver chez les Hébreux aussi cette présentation tripartite de l'enseignement, étant donné que les mêmes réalités ont fait l'objet de la philosophie chez eux aussi avant la naissance de Platon. Voilà, je conclus avec cela. Disons que il me semble que c'est quand même une clé pour comprendre. Enfin, que la division tripartite de la philosophie n'est pas du tout un point annexe de la Cité de Dieu, et en tout cas pour vous, permet sans doute de comprendre l'enjeu philosophique des développements des livres 11 à 22, avec toutefois la prudence d'Augustin. C'est pas la philosophie qui est la norme ultime, c'est l'écriture qui est la norme ultime. Mais en même temps, les philosophes sont allés quand même très loin dans la visée d'Augustin, dans la reconnaissance quasiment du mystère trinitaire. Voilà, je vous remercie. Oui. Non, je crois qu'il n'y a pas le temps pour la discussion.
Permettez-moi simplement d'ajouter mes remerciements à Isabelle Bochet pour avoir organisé cette séance qui a été vraiment précieuse.